tu m'appelles. Les grands héros, soit les héros de la foi, soit les grands personnages bien connus des Écritures. Et des fois, on survole les numéros 2 que j'ai appelés, mais que j'ai appelés aussi les héros de l'ombre. Parce que bien qu'ils peuvent jouer un deuxième rang ou un deuxième rôle, je crois que les Écritures nous laissent dans sa parole, Dieu nous a laissé dans sa parole que ces rôles-là que je confie à des hommes et des femmes ne sont pas des sous-rôles ou des positions que Dieu leur a données qui sont moins importantes. À travers les Écritures, ben Dieu nous a laissé, j'ai écrit quelques noms là, par exemple Sarah, Lot, Josué, Caleb. Caleb il est quasiment même un numéro 3, hein? Mais on va voir des bonnes choses, des belles choses sur Caleb. David a été un temps de sa vie où évidemment il était numéro 1. Comprenez-moi quand je dis numéro 1, numéro 2, là, c'est l'idée d'avoir une exposition face au peuple. Mais pendant plusieurs années, David a été numéro 2, où il était dans l'ombre. Et encore plus dans l'ombre, Jonathan, qui lui aurait pu espérer être le numéro 1, mais qui a joué le rôle que Dieu lui a donné. On a des beaux enseignements à tirer profit, des prophètes. Par exemple, Élisée, qui était dans l'ombre de Élie pendant plusieurs années. Samuel aussi, lui-même, qui était dans l'ombre. Barnabas, qui est un bien connu, et d'autres du Nouveau Testament. On a de beaux enseignements, de belles applications pour notre vie, pour mettre en pratique ces rôles-là que Dieu peut nous confier. Je pense qu'à travers cette étude-là qui est devant nous, ça va nous permettre de passer à travers plusieurs doctrines. On n'exposera pas les doctrines avec les grands mots comme les théologiens vont le faire. On va parler d'anthropologie, d'amartiologie, de sotériologie, de théologie. On va passer des doctrines importantes, je crois, à travers ces personnages-là. On va découvrir qui on est. On va découvrir, malheureusement, les influences du péché sur nos vies. On va découvrir le salut que Dieu ou la liberté que Dieu veut nous accorder. Et évidemment, on va découvrir Dieu à travers ces personnages-là. On va voir différentes études aussi, comment est-ce que Dieu a dirigé, puis comment est-ce qu'il peut nous diriger aussi. Dieu, à chacun d'entre nous, nous a donné un rôle, nous a donné une place dans le corps. Quelle est notre place? Quel est notre rôle? On peut être dans différentes classes sociales, on pourrait dire ça comme ça, où on pourrait être des ados ou des jeunes adultes qui sont à l'école à temps plein, puis on pourrait dire « Oui, mais Dieu, oui, veut m'utiliser, mais je suis très impliqué dans les études, j'ai le travail, c'est difficile pour moi de jouer le rôle que Dieu m'a confié. » Peut-être qu'il y a des jeunes familles qui diraient « Ouais, mais moi j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai un ministère dans différentes choses, mon rôle il est difficile à prendre. » Peut-être que vous êtes à une période où ce que vous êtes à la retraite et puis que là vous avez soit des occupations que ça fait longtemps que vous avez reportées, puis là vous dites « Ben là c'est maintenant que j'ai l'opportunité de les faire » ou peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes plus avancé en âge puis vous dites « Mais j'ai pas nécessairement l'énergie, j'ai pas nécessairement la capacité. » Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que Dieu vous laisse entre vos mains présentement? Si Dieu vous donne le mouvement et l'être encore ce soir et demain, comment est-ce qu'il veut vous utiliser? Quel rôle est-ce qu'il vous a laissé? Et on pourrait même dire que la majorité des rôles ou des places que Dieu va identifier ses enfants, c'est des rôles souvent dans l'ombre. Les rôles qui sont très exposés, il y en a peu. Et puis même, on va voir un peu plus tard à travers les Écritures que même ces rôles-là qui sont exposés doivent être exercés dans une attitude de serviteur. Est-ce que même si mon rôle est dans l'ombre, comme j'ai intitulé « Les héros de l'ombre », Est-ce que parce que le rôle où ce que Dieu m'a placé, où ce que Dieu veut m'utiliser, se fait dans l'ombre, est-ce que c'est moins important? Est-ce que c'est moins payant? Un point de vue spirituel, là. Est-ce que c'est moins encourageant? On n'a pas toujours peut-être la reconnaissance parce que c'est fait dans l'ombre. On n'a pas toujours l'exposition pour que les gens puissent l'apprécier. Est-ce que parce que c'est dans l'ombre, c'est moins essentiel? Est-ce que c'est facultatif? Je crois que Dieu nous enseigne à avoir ce rôle-là, bien qu'il puisse être dans l'ombre, mais qu'on joue le rôle que Dieu nous donne, nous a laissé. Peut-être que vous dites, là, David, est-ce que tu t'apprêtes à nous enseigner à être de bons deuxièmes? Ben ouais. Pourquoi pas? C'est pas populaire, hein, de parler d'être de bons deuxièmes. C'est pas très valorisant au sens humain, au sens terrestre. C'est pas très populaire dans notre société que d'être deuxième. Habituellement, on veut être premier. Notre tendance humaine, c'est de vouloir être premier. Nous voulons tous être servis et non être des serviteurs. C'est notre tendance naturelle. Puis je pense que c'est fort probablement une des raisons pourquoi le Seigneur a insisté tant aussi sur cette attitude de serviteur. Êtes-vous capable de me nommer, pour certains ça va être facile, qui était par exemple en 2009, pas cette année, mais l'autre année d'avant, qui était deuxième à la Coupe Stanley, qui étaient les perdants? Philadelphie. Là, on creuse un petit peu plus, hein? Si on recule, il y a 3 ans, c'est qui même, peut-être même celui qui a gagné la Coupe Stanley, on s'en souvient moins, on s'en souvient encore moins du deuxième. Tu sais, dans les Jeux olympiques, là, le nageur olympique là, américain, Michael Phelps, c'est qui le deuxième? Bonne question, hein? On ne se soucie jamais du deuxième, surtout pas dans cette discipline-là. Il est tellement en avant de tout le monde. On connaît bien, par exemple, Tiger Woods parce qu'il est le premier au golf, mais c'est qui le deuxième? Ça prend des bons connaisseurs pour connaître. Il y en a qui le savaient? Ouais, il a glissé deuxième. Ouais, c'est ça. Il a glissé pas mal loin même, peut-être aussi, là, dans sa vie aussi, là. Mais généralement, on se souvient pas des deuxièmes, hein. Dans les Jeux Olympiques, on va donner une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Mais ce qu'on se souvient, c'est les premiers. C'est ce qui est valorisé dans notre société. Mais d'être des héros dans l'ombre. Être ces héros de l'ombre, c'est ces gens qui jouent le rôle que Dieu leur donne, même s'il est dans l'ombre, même s'il est considéré comme en second plan. Et je crois que ces exemples que Dieu nous laisse à travers différents hommes, femmes, principes que Dieu nous laisse aussi à travers différents textes qu'il nous a laissés, nous amènent à travailler notre caractère, nous amènent à travailler notre vie terrestre pour mettre en pratique cette attitude-là, ce caractère-là. Alors oui, on va tirer l'enseignement des Écritures pour être de bons deuxièmes. Parce que ce qu'on veut, c'est prendre la place que Dieu nous donne. Et si la place que Dieu nous donne, c'est un rôle qui se joue dans l'ombre, mais faisons-le, comme ce que Dieu l'a donné. Puis en fait, parlons humainement, là. Qu'est-ce qui paye le plus? De vouloir faire le premier rôle ou faire le rôle que Dieu m'a confié? C'est bien plus payant, si on parle humainement, faire le rôle que Dieu nous confie que d'essayer d'en faire un autre qu'on croit être mieux. Alors, il n'y a pas plus grande œuvre qu'on peut faire que celle que Dieu nous a confiée. C'est ça l'essentiel à travers de ces études-là qu'on va voir. Le premier point, ce soir, je veux qu'on voit l'introduction. Il nous reste à peu près 15-20 minutes. J'aimerais qu'on fasse l'introduction avec le premier point que j'ai appelé saisir le talon. Comprenez-vous le sens? Tournez avec moi dans Genèse. Lâche le talon. Le premier point que je veux qu'on voit ce soir, puis en fait les deux, et j'espère, je ne sais pas si on va se rendre jusqu'au deuxième. Ce que je veux qu'on voit ce soir, c'est en appelant ça, saisir le talon, c'est les difficultés relatives au concept même que d'être deuxième. Les difficultés qu'il y a dans notre nature auxquelles on est confronté pour accepter d'être deuxième. Pourquoi j'ai appelé saisir le talon? Et le deuxième point que je voulais voir, c'est l'enseignement du maître. L'enseignement du maître que l'on a, notre Seigneur, notre maître, Jésus-Christ. Quel enseignement est-ce que lui nous a donné pour mettre en pratique aussi? Genèse 25, un volontaire qui voudrait lire les versets 21 à 26, s'il vous plaît. Genèse 25, 21 à 26. Un volontaire pour lire ça? OK, Serge. Est-ce que tu es dans Genèse 25? Ah, tu as commencé au verset 20. Correct, continue, j'ai manqué le début. Vas-y. Continue, jusqu'au verset 26. OK. Isaac, sa femme est stérile. Il implore l'Éternel pour avoir des enfants. Sa femme, Rebecca, devint enceinte. Et là, il se passe quelque chose. Première surprise, des jumeaux. Deuxième surprise, Yérou. Ouais. Alors, il n'est pas juste roux. Mais avant de savoir qu'il est roux, il y a un autre problème qui semble se créer. Il me semble que ça bouge pas mal dans Beden. Hein? Ils sont en train de se heurter continuellement. Posez-moi pas la question, comment ça se fait que deux bébés d'âge comme ça, aussi encore même en train de grandir, pouvaient se, le texte dit, heurter. C'est vraiment intéressant. Mais ça a été suffisamment troublant pour Rebecca pour aller consulter l'Éternel et demander, « Dieu, c'est quoi qui se passe, là? » Il me semble que ça bouge plus que d'habitude. On n'avait jamais eu avant, là, mais il semblait que... Et ça bouge plus, ça bouge beaucoup, là. Et là, Dieu lui dit quelque chose. Lui explique pourquoi ça se heurte comme ça. C'est quoi la réponse? Deux nations qui sont dans ton ventre. Et ces nations-là, est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Non, malheureusement. Jacob et Ésaü. Qui est le premier à sortir? Ésaü, qui est le premier-né. Mais Jacob, lui, il voulait passer devant. Hein? Ça commençait tôt, son affaire. Il voulait passer devant, puis il tenait le talon en sortant. C'est pour ça qu'il s'est fait appeler Jacob. Mais déjà, à cette époque-là, Dieu avait déjà prophétisé sur ce qui s'en venait avec Ésaü et Jacob. Le plus petit va assujettir le plus grand. Le plus grand va être au service du plus petit. Déjà, il y avait à cette période-là une mésentente. Ça allait devenir évidemment de plus en plus évident. On connaît la suite de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, où Jacob a trompé son père en étant aidé de sa mère pour passer devant son frère Ésaü, qui lui devait avoir le droit d'aînesse. Mais qu'en fait, Ésaü a profané son propre droit d'aînesse, puis il l'a vendu pour un bol de soupe. Et puis, Jacob en a profité. Puis, Jacob est passé devant. Mais déjà, il y avait dans cette histoire-là, déjà, une tension entre le premier et le deuxième, un qui va assujettir l'autre, et cette guerre qui s'en venait. Ésaü est le père des Édomites. Édom, qui était vraiment au sud de Juda, en dessous, et qui, effectivement, les Édomites étaient un peuple... en quelque sorte nomade et puis qui vivait dans des grottes, qui avait pas beaucoup de comparativement à Jacob, qui on connaît évidemment la suite de l'histoire, là, qui est devenu un peuple prospère. En tout cas, dépendamment des époques, là, mais qui était destiné à l'être, du moins. Je pose la question, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être deuxième? Je pose la question comme ça. Qu'est-ce qui humainement nous empêche ou nous donne du fil à retordre pour accepter le rôle de l'ombre, d'être dans l'ombre, de jouer ce rôle-là qui peut être dans l'ombre? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de le faire? Oui, Priscilla. Moins de reconnaissance? OK. Quoi d'autre? Oui, Mission. OK. Ah oui, alors, il y a une grosse part juste là. L'humilité. On a cette lutte-là, chacun d'entre nous, avec le péché et l'orgueil aussi dans nos vies, que de dire « j'accepte de m'humilier ». C'est un commandement du Seigneur, hein? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est humilié lui-même. Quoi d'autre? Évidemment, le péché est un des empêchements premiers. L'orgueil. Comment? La jalousie. Oui. L'envie, absolument. La jalousie. L'orgueil. Oui. De vouloir avoir la puissance, la gloire, le contrôle. On veut pas être assujetti, hein? On veut assujettir. Quel conflit s'était passé entre Caïn et Abel? La jalousie? Comment? Oui. De celle d'Abel, oui, c'est ça. Alors, Abel avait offert ses animaux en sacrifice, puis Dieu n'a pas porté un regard favorable au sacrifice de légumes à Caïn. J'ai-tu inversé les paroles? Inversé un petit peu? Merci, Serge. Merci de me suivre. Mais alors, Abel avait offert les animaux en sacrifice, et puis Dieu avait porté un regard favorable à ce qu'Abel avait fait, contrairement à Caïn. Puis Caïn était jaloux, et puis était fâché, puis à place de se repentir, puis d'accepter, de s'humilier devant ce que Dieu acceptait, puis de s'humilier même devant son frère, de dire, ben, regarde, moi, t'as acheté des animaux, on va faire un échange, je vais te donner des légumes, je vais prendre tes animaux, puis je vais offrir les animaux que toi t'as élevés pour le faire. Alors, l'orgueil a fait en sorte qu'il a préféré éliminer son frère que de s'humilier, premièrement devant Dieu, puis même avec son frère, de passer en deuxième, exactement. C'est ça, c'est ça. Alors, c'était humiliant pour lui. Tournez avec moi dans Nombre 16. Peut-être qu'on va... en tout cas, on va voir quand on aura terminé Nombre 16, où le temps sera avancé. Peut-être qu'on finira pour ce soir cette conclusion-là ici. Mais je vais apporter un autre exemple dans Nombre 16. Ça sera pas long, je vais juste terminer ma phrase, puis je vous donne la parole. Dans Nombre 16, je vais apporter un autre exemple de cette tension qu'il y existe où humainement, on n'a pas toujours envie de prendre ce rôle dans l'ombre. Où on n'a pas toujours envie, puis il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil. On veut pas s'humilier, on veut contrôler. Et puis, on aurait pu relever plein d'exemples à travers les Écritures d'hommes et de femmes qui se sont rebellés à la place que Dieu voulait leur laisser. Puis, j'aimerais qu'à travers le nombre 16, qu'on regarde les conséquences que ça a donné à ces hommes-là. Oui, madame, j'oublie votre nom, je suis désolé. Marie. Oui, il faudrait que je réfléchisse plus. Peut-être, certainement, est-ce que la jalousie peut découler de l'orgueil? J'aurais de la misère à dire dans quelle équation on peut le placer. Ce que je répondrais à ça, c'est que le péché engendre le péché. Alors, de là, quand il commence à avoir ce péché-là, ben le péché va engendrer le péché. Alors, il faudrait que je réfléchisse plus à cette question-là, mais c'est une bonne question. Dans Nombre 16, on a, juste avant, pour faire le résumé, le peuple est en train de s'établir, est en train de s'installer, puis est en train de recevoir dans un sens les préceptes, les commandements que Dieu a donnés. Et puis là, Dieu, il dit, OK, là, il y a 12 tribus dans Israël, dont une qui est Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il y a plusieurs familles, dont une principale, qu'on retient avec les Écritures, qui est la famille d'Aaron. La famille d'Aaron s'est faite confier le sacerdoce. Alors, c'est eux qui allaient offrir les sacrifices, qui allaient offrir les parfums, c'est eux qui allaient servir dans le sacerdoce plus précisément. ça faisait pas l'affaire de tout le monde. Puis il y a une famille qui s'est dit, attends une minute, pourquoi pas nous autres? On est capables, nous autres aussi? Ça vous dit-tu de quoi, la révolte de Corée? C'est ce qu'on va lire. Corée, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Éliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Alors quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il fera approcher de lui, et il fera approcher, excusez, le disque saute, il fera approcher de lui celui qui choisira. » Ah, c'est ça, il y avait une redondance. Verset 6. « Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, celui-là, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel? Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Datan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leurs offrandes. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du feu et présentez... » J'ai dit quoi? Du parfum? Excusez. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum. Ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée? » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dis, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Datan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez au même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Datan et d'Abiram. Datan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé vous faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ils subissent le sort commun à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit la bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse ». Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est particulier, hein? C'était très clair. On a un bel exemple dans les Écritures d'un homme qui n'a pas accepté ce que Dieu avait confié à Aaron. Avant que je donne tous mes commentaires, je vais vous poser, je vais avoir vos commentaires à chaud du texte. Qu'est-ce que vous voyez dans le texte qui crée comme difficulté de se révolter contre le plan de Dieu, là où ce que Dieu veut nous placer? Qu'est-ce que vous voyez dans le texte qui soit nous encourage à considérer le rôle que Dieu nous a donné, ou qui nous encourage aussi à renoncer à certains, que ce soit, par exemple, certaines attitudes, que ce soit l'orgueil ou le manque d'humilité ou l'envie, la jalousie? Quels sont vos commentaires à chaud du texte? Oui, Gisèle. Alors, les Lévites avaient un rôle particulier, absolument, au sein du peuple, qui n'était pas nécessairement le sacerdoce, mais qui était de différents rôles qui pouvaient être donnés. Par exemple, il y avait des villes où il y avait des Lévites, et puis qu'ils étaient des représentants, dans un sens qui n'était pas tout à Jérusalem. Mais alors, les Lévites étaient répandus un peu partout. Dieu leur avait confié un rôle, mais ils ne s'en contentaient pas. D'autres commentaires que vous voyez du texte? Quelles sont les conséquences? Évidemment, la conséquence est évidente, mais quelles sont les conséquences à pour employer l'expression que je disais tantôt, à tenir le talon, à ne pas accepter le rôle que l'on peut avoir? Quelles sont ces conséquences-là, à travers le texte qu'on vient de lire? OK? Comment? Rejeté de Dieu. Comment est-ce que Dieu a vu Corée, là? Pauvre Corée. Faudrait lui donner un rôle pour le satisfaire. Comment? Lui donner un bonbon. Dieu a pas vu ça comme ça. Dieu y a vu une révolte. Il a vu un homme qui se révoltait contre sa volonté. Oui, je l'ai. Hein? Hein? Il était mécontent. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait dans son mécontentement? Au tout début du processus, Serge? C'est ça? Oui. Hein? Oui. C'est ça. Corée avait un rôle que Dieu lui avait confié, mais il ne s'en contentait pas. Et son envie, sa jalousie, son orgueil a été contagieux autour des gens qui étaient près de lui. Ça a eu une influence négative sur beaucoup de personnes. On voyait, le texte nous disait que les gens étaient devant leur tente. Il y avait même les femmes, les enfants. Et puis malheureusement, tous ceux qui demeuraient associés à Corée, puis qui ne se sont pas séparés, mais tous ces gens-là qui ont choisi le camp de Corée ont malheureusement péri à ce moment-là. Puis, c'était quoi même l'attitude de Moïse là-dedans? Moïse, Il subissait dans un sens la foudre du peuple qui était insatisfait de ces hommes-là. C'était quoi son attitude, lui, même face à Aaron aussi? Oui. 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 Oui, absolument. C'est ça? Oui. Alors oui, effectivement, il subissait lui aussi les conséquences de cet orgueil-là. Puis même, oui, vas-y, Paul, continue. Oui. C'est ça? Alors, il y avait de l'assurance. OK, et ça, c'est un excellent point parce que justement, il savait que Dieu lui aussi lui avait confié une mission pour Aaron. Et quand il a lancé dans un sens le défi ou l'épreuve de quel parfum que Dieu va consommer, il ne s'est pas inquiété pour Aaron parce qu'il savait qu'est-ce que Dieu avait dit sur Aaron et sa famille. Et que Dieu allait accepter, dans un sens, ce brasier, ce parfum qui était donné par Aaron, contrairement aux autres. Moïse, regardez le verset 20. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, que je les consume en un instant. » Dieu en a assez de ce peuple aux coups raides, qui veut plus, qui n'accepte pas. Comment ça se fait que, Moïse, tu nous as conduit, tu nous as sorti du pays où coule le lait et le miel, puis tu nous emmènes dans un lieu désert. Il s'était trompé, là. Il fallait quelqu'un qui allait leur ramener ça à l'ordre, là. C'était le contraire. Ils étaient esclaves, eux autres, en Égypte, si je me souviens bien. Ils n'avaient pas l'air à s'en souvenir, mais quand ils sont sortis de là, la promesse était que Dieu allait les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mais c'était l'inverse qu'eux percevaient. Et là, Dieu il dit, Moïse et Aaron, là, reculez-vous, là, puis je vais les consommer en un instant. L'attitude de Moïse, puis c'est pas la première fois que cette attitude-là, d'implorer l'Éternel, de demander à Dieu, pas que Moïse a des sentiments plus nobles que ceux de Dieu, évidemment que non, mais Moïse aime son peuple. La sainteté de Dieu sur son peuple va s'exercer, de sa sainteté va découler la colère face au péché, qui est une colère juste, qui s'exerce aussi dans un jugement qui était nécessaire et qui aurait été certainement très justifié à ce moment-là. Puis ce que Moïse fait, c'est Dieu n'exerce pas ce jugement-là. Ce que j'implore, c'est ta miséricorde. Et Dieu accepte ça. Moïse, verset 22, « Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits et de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » Et puis là, Dieu, il dit, « OK, on va voir le peuple. » Il dit, « Ah, tous ceux qui veulent se séparer de Corée, qui se séparent maintenant. » Puis après ça, il y aura un jugement exercé. Tout cela découle du fait qu'un homme refusait le rôle ou désirait un autre rôle que lui voulait exercer. Pourquoi? C'est quoi qu'il y avait dans le cœur de Corée? On ne le sait pas, on ne peut pas aller gratter, mais dans cette nature pécheresse, on peut comprendre certainement qu'il pouvait y avoir de la jalousie, de l'envie. Et est-ce que c'est juste par Aaron ces choses-là vont se faire, là? Est-ce que c'est juste par Moïse que Dieu nous parle? Souvenez-vous, Marie, elle disait ça aussi. Est-ce que, dans le fond, c'est juste eux, là, les premiers qui font toute la job? Nous autres aussi, on veut faire ça? Ben, attends un petit peu. Je vous ai confié un rôle aussi. Fils de Corée, les tribus de Lévi, toutes les tribus avaient un plan dans ce que Dieu avait établi, mais n'acceptaient pas ce rôle-là, puis désiraient quelque chose que Dieu ne leur avait pas donné. Et il y a eu des conséquences évidentes sur Corée, sur ses enfants et sur tous ceux qui ont décidé d'être associés à ça. À quoi nous conduit cette attitude pour nous dans notre vie aujourd'hui, là? je crois que la terre s'ouvrira pas avec le feu qui va nous consumer. Il y a un jugement qui s'en vient imminent, qui est annoncé, qui est décrété, qui est à venir, où ce que Dieu va certainement juger les hommes. Et puis, mais pour nous, dans notre vie, quand on n'accepte pas ce rôle-là, ou quand on n'accepte pas de faire ce que Dieu veut ou qui s'attend de nous, là où il nous a placés, quelles en sont les conséquences? Quelle attitude devrait être corrigée? Comment je devrais revenir dans un sens à considérer que ce que Dieu veut que je fasse, c'est ce qui est préférable que je fasse, qui est de plus grand que n'importe quoi d'autre. Et je crois qu'il faut revenir à l'encouragement. Et ben, le temps est avancé. Et on va le lire vite, OK? Luc 22. Parce que dans un sens, je ne veux pas terminer avec juste cet aspect négatif où on a une nature où on désire tenir le talon. Jacob, il naît le talon. Je pense que c'est une image qui nous est laissée dans les Écritures qui révèle bien notre genre humain, où on a envie de tenir le talon. On a envie de passer devant. Puis ce que Dieu nous enseigne, c'est le second rôle, quelque chose qui est pas un prix de consolation, mais qui est même, quand on joue ce deuxième rôle-là, qui est de première importance. Puis, il y avait une question pour les disciples. En fait, c'est intéressant parce qu'on vient de lire Corée. Il s'est passé plusieurs années entre ce qu'on va lire puis ce qu'on vient de lire, ce qu'on s'apprête à lire. Il s'est passé encore plusieurs années. Puis c'est toujours la même tension qui existe dans nos cœurs. C'est qui le plus grand? Luc 22, verset 24. Quelqu'un qui veut le lire? OK, vas-y, Michel. Comme celui qui sert. Il y a une discussion là avec les disciples. Là. Dans le royaume, ça va être qui le plus grand? Quel rôle que tu penses que tu vas exercer? Toi, tu vas juste être le commandant. Moi, je vais peut-être être le gouverneur ou peut-être le bras droit de Jésus. Qu'est-ce qui se passait dans leur conversation? Je sais pas. Mais c'est qui le plus grand? C'est ça leur question. Parce que leur façon de penser est encore la même façon de penser que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est que celui qui domine, c'est celui qui est le plus grand. Alors, si je peux être le plus grand, je vais être celui qui va dominer et vice-versa. Mais Jésus leur dit, vous pensez à l'envers de ce que moi je veux vous enseigner. Le monde dans lequel vous vivez fonctionne à l'envers du royaume de Dieu. Quand on vit dans le monde, les grands de ce monde, les gouverneurs, les autorités, ce que Jésus disait, c'est eux qui gouvernent, puis en plus, ils vous font croire qu'ils sont bienfaiteurs, même s'ils vous dominent. Alors, ils ont cette mauvaise perception de gouverner, puisqu'ils dominent. Et là, Jésus leur dit, quel est le plus grand? Est-ce que c'est celui qui est assis à table? Celui qui est assis à la table avec ses beaux vêtements, qui est à la réception, ou celui qui sert? Ben naturellement, Jésus dit, ben celui qui est à la table. Il est en train de leur dire, puis moi, je suis présentement parmi vous comme celui qui sert. Puis c'était qui le plus grand? C'était Jésus, hein? Et Jésus nous a montré que celui qui est le plus petit, celui qui se considère comme le serviteur, c'est lui qui sera le plus grand, du moins dans le royaume. C'est l'attitude qui est à l'envers de notre monde. Certainement que c'est une bonne chose de rechercher cette attitude d'humilité dans le service. Et même Jésus va dire au verset 26, qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus? Que celui qui se fait confier un rôle, parce qu'il y en a des rôles qui sont confiés pour gouverner, pour prendre soin, pour diriger, mais que celui qui exerce ce rôle-là le fasse dans quel esprit? Dans le service. Qu'il le fasse comme pour servir. qu'il gouverne comme celui qui sert. C'est l'enseignement du maître. Jésus lui-même nous a montré que c'est une bonne chose d'être des serviteurs. C'est une bonne chose que d'avoir ce rôle-là, peut-être même dans l'ombre. Puis dans les prochaines études, on va voir les différents personnages, comment est-ce que Dieu les a utilisés. Comment est-ce que, oui, ils ont été dans l'ombre, mais quels ont été leurs défis, quels ont été, autrement dit, la main d'action que Dieu a pu avoir dans leur vie, par eux et pour eux aussi. On arrête là. Question, commentaire? Oui, Michel? C'est ça? C'est ça. L'ego, il est gros des fois. Ouais. C'est bon. D'autres questions, commentaires? OK, je vais prier en terminant. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Parce que, Seigneur, tu nous as révélé la vérité sur notre vie, sur notre propre nature. Tu nous montres que cet égoïsme, cette envie, cette jalousie ne mène à rien de bon. Nous mène, Seigneur, même à nous éloigner de toi, à perdre plus que ce que l'on peut gagner. Puis en même temps, tu nous as révélé qu'est-ce que tu t'attends de nous, puis comment tu t'attends que tes enfants, Seigneur, mettent en application cette vérité dans le service. Et tu nous montres, Seigneur, que d'avoir cette attitude de serviteur, c'est l'attitude qui te plaît. Et c'est l'attitude qu'on veut choisir aussi. Je te prie qu'à travers ta parole, à travers ces études, que tu viennes parler à nos cœurs, chacun d'entre nous, pour que, ultimement, pas seulement qu'on apprenne ces personnages que l'on peut voir dans ta parole, Seigneur, qu'on apprenne à mieux connaître leur vie, mais qu'on apprenne à mieux connaître qui tu es, qui nous sommes, puis comment tu veux qu'on change nos vies, Seigneur, pour te ressembler de plus en plus. Et en nom de ton Fils, qu'on te prie ces choses. Amen.